parole de Dieu, une première lecture très brève, Matthieu chapitre 6 et le verset 6, un verset qui est très connu, Matthieu 6, verset 6, c'est Jésus qui enseigne s'agissant de la prière, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. » Gloire à Dieu. Et dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, une lecture un peu plus longue, à partir du verset 8, 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Et au verset 31, alors il s'est passé pas mal d'événements. L'enfant a grandi et puis alors qu'il était au champ avec son père, des violents maux de tête le saisissent. Et malheureusement, rapidement, l'enfant qui vient d'être porté à la maison décède. Sa mère le prend et met son corps inerte dans cette fameuse chambre haute qui était réservée pour Élisée. Elle va donc recourir auprès du prophète. Et au verset 31, nous reprenons le récit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Quelle belle histoire, quel beau témoignage. Ce témoignage a comme personnage d'importance une femme, et je vais m'intéresser à cette femme dont on ignore le nom. Elle habite la ville de Sunem, que Élisée le prophète visitait régulièrement. Et la Bible nous renseigne concernant cette femme. Elle dit une femme de distinction. Une femme de distinction. Autrement dit, une femme qui se distinguait parmi les autres. Elle avait quelque chose qui la distinguait. Alors, il n'est pas donné d'informations qui la distinguait des autres. Son aspect physique, son niveau intellectuel, la couleur de ses cheveux, le timbre de sa voix, non, rien, on ne sait rien de ce genre de choses. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, cette femme a exprimé des dispositions de cœur qui, aux yeux de Dieu, eh bien, ont obtenu un regard favorable. Le Seigneur a apprécié cela. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais, en partageant cette introduction, que cette femme puisse susciter en nous les qualités qui ont fait d'elle la distinction, la différence. Il y a quelque chose qu'assez rapidement, cette femme a exprimé, c'est une motivation, une aspiration, un désir très fort d'ouvrir sa maison à l'homme de Dieu. En ayant bien sûr compris qu'en ouvrant la maison à l'homme de Dieu, elle ouvrait la maison à Dieu lui-même, aux choses de Dieu. Elle va venir trouver son vieux mari en lui disant « Je sais une chose, je le sais. » Elle le sait certainement par une révélation personnelle. Je sais que cet homme, ce n'est pas un homme comme les autres. Je sais que cet homme, ce n'est même pas une personnalité du monde religieux. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et ça, ça a suscité en elle le désir de l'accueillir et d'accueillir en même temps tout ce qu'il représentait, Dieu lui-même, les valeurs du royaume des cieux, la sainteté de Dieu, la vie de Dieu, la présence de Dieu. La Bible nous dit, si nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, affectionnons-nous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Eh bien, cette tsunamite, elle a manifesté cette qualité d'avoir beaucoup d'intérêt, d'aspiration aux choses saintes, divines, aux choses d'en haut. Un grand intérêt pour accueillir l'homme de Dieu. Et cette femme va aller un peu plus loin, de repas en repas. À un moment donné, elle va entreprendre carrément de bâtir avec des murs une chambre haute, en dédiant cet espace à l'homme de Dieu. Le but était que l'homme de Dieu, lorsqu'il viendrait les visiter, puisse se retirer dans un espace qui lui serait personnel. Et c'est le titre de ma prédication. Notre espace personnel avec Dieu. Notre espace personnel avec Dieu. Il y a notre vie publique, et puis il y a, en tout cas, il devrait y avoir notre espace personnel avec Dieu. Une petite chambre haute, architecturellement, ce n'était pas impressionnant. C'était un espace qui pouvait sembler anodin, ça n'était pas spectaculaire, mais ce qui était d'importance, c'était sa destinée, son utilité. C'est là que l'homme de Dieu se retirait. Et là, il se passait des choses, il s'est passé des choses qui dépassent l'entendement humain, comme le reste du récit nous le révèle. Et donc, elle va aménager, après l'avoir construit, elle va l'aménager, elle va l'équiper. Et en matière de déco, c'est minimaliste. Elle va installer 4 ustensiles, mobilier, comme vous voulez. Rien de superflu, rien d'encombrant, 4 éléments qui vont être, dans leur symbolique, des éléments d'utilité fondamentale. Un lit, une table, un siège, un chandelier. Dans mon espace personnel, dans ma vie intime, il y a ce risque de l'invasion de multiples futilités qui voudraient embarrasser, encombrer, des pensées parasites aimeraient envahir ma tête, des sentiments divers aimeraient s'insinuer dans ma vie affective, des préoccupations, des inquiétudes, des soucis divers, des réflexions, des analyses, des raisonnements, certains projets, des motivations, des tas de choses voudraient venir encombrer l'espace qui, dans sa destinée initiale, est réservé à un usage bien particulier, c'est que je m'y retire pour vivre avec mon Dieu une vie de communion intense, régénérante, ressourçante, fortifiante, indispensable pour vivre heureusement ma vie publique, ma vie sociale, ma vie ecclésiale, l'espace personnel avec Dieu. Mon frère, ma sœur, nous vivons une société qui a misé sur l'aspect extérieur, l'apparence. Les hommes auront l'apparence. Mais Dieu, lui, a toujours été le Dieu de la vérité qui regarde au cœur. Et à ses yeux, rien n'égalera l'importance de ces moments précieux que nous pourrons vivre en communion avec lui. Les 4 ustensiles, on peut dire, qui ont meublé cet espace, et dans un ordre qui est à considérer, il y a une progression dans l'ordre, ce n'est pas comme ça un fratras et une énumération de choses, non, mais il y a une progression, ça commence par un lit, puis une table, enfin un siège, et puis un chandelier. Le lit me parle des besoins les plus urgents et les plus prioritaires dans lesquels je peux me trouver et qui concernent le ressourcement, la réparation, le renouvellement de ma vie intérieure. Ça commence par là. Lorsque tu es épuisé, la priorité, c'est de réparer tes forces. Lorsque tu es très préoccupé, pour ne pas dire obsédé, par une problématique qui colle à ton esprit, qui te poursuit même dans ton sommeil, qui enlève ton appétit, qui perturbe ton âme. L'urgence des urgences, c'est que tu puisses entrer dans le repos de Dieu. Le lit, ce n'est pas le lit du feignant, c'est le lit de celui qui répare ses forces, qui renouvelle ses forces. Il a compris la nécessité pour aller plus loin de vivre un renouvellement constant, un rafraîchissement de sa foi, un affermissement de son espérance. Le lit me parle de cette démarche que ma foi me permet de me décharger de mes soucis, de jouir de la paix que Dieu donne et d'être intérieurement régénéré. Si tu veux aller plus loin, tu as besoin, pendant ta marche, du renouvellement de tes forces. Et ces renouvellements de forces ne se trouvent pas dans l'ordonnance d'un médecin, mais dans la chambre haute, l'espace personnel avec Dieu. Rien ne pourra remplacer un moment intense de cœur à cœur avec le Père Céleste, où tu pourras tout lui dire, plutôt que de le dire sur WhatsApp ou sur Facebook. Lui, tu peux tout lui dire. Tu peux dépeindre, décrire, décortiquer tes luttes, tes frustrations, tes déceptions, tes sentiments de trahison. Tu peux déverser à ses pieds, là, dans ton intimité. Et il remplacera toute cette accumulation pesante par la restauration, l'apaisement et l'encouragement dont tu as besoin. Que Dieu soit béni. Élisée, tout prophète qu'il était, et quel prophète, avait besoin quand même d'un lit pour se ressourcer. On parle souvent du sommeil réparateur, et ben oui, ben on a besoin de réparation. On a besoin que nos neurones retrouvent un rajeunissement. C'est la priorité des priorités. Ça commence par là. On ne peut pas espérer aller à des étapes ultérieures si déjà, là où nous en sommes, nous sommes dans un état d'essoufflement, de fatigue extrême, d'usure et d'érosion. Nous avons besoin d'abord, en premier, que notre vie spirituelle soit rajeunie, affûtée, aiguisée, renouvelée. Alors on peut espérer aller plus loin. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Qu'il lève la main, le pied, les oreilles, enfin, c'est ça commence par là. Dans ton espace personnel, en espérant que tu en aies un avec Dieu, la première étape, c'est le ressourcement. C'est le renouvellement. Il faut absolument, c'est impératif, absolument, il faut que tu ressortes de ces moments-là totalement rajeuni et renouvelé par la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Alors bien sûr, une fois que je suis restauré, encouragé, renouvelé, il y a la table. Et la table, vous le savez, nous parle de deux choses qui n'en forment finalement qu'une. C'est tellement logique. La table nous parle de s'alimenter, en même temps, elle parle de communion. Et c'est tout à fait relié, puisque c'est par le moyen de ma communion précieuse et intense avec Christ que je vais alimenter mon être intérieur. Jésus l'a dit, tout le monde n'a pas saisi la portée spirituelle de ses paroles, mais il a dit, En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors ça a mis un trouble parmi les auditeurs de cet enseignement. Et Jésus va quand même répondre en disant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que quand Jésus parle de se nourrir de sa chair et de se désaltérer de son sang, bien entendu, ce n'est pas au premier degré qu'il faut comprendre, ce n'est pas du cannibalisme qui est promu, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une portée infiniment spirituelle. Je comprends donc que vivre en communion avec Jésus nourrit mon être intérieur. Ça nourrit ma foi. Ça nourrit mes certitudes. Ça nourrit mon espérance. Ça nourrit mon âme. Je comprends donc que le temps que je passe à la table du Seigneur va lui permettre de déverser en moi, de me communiquer qui il est. Sa vie, ses vertus. Quelqu'un parlait tout à l'heure dans sa prière d'être saturé de Jésus. C'est exactement ça. Le Seigneur nous appelle à nous retirer régulièrement dans notre espace personnel, à nous mettre à table avec lui et à vivre des moments intenses qui vont permettre que tout notre être va s'imprégner de Jésus, j'allais dire se gorger de Jésus. Je ne sais pas si on peut appeler ça des cellules ou des chromosomes, mais chaque cellule du chrétien devrait être saturée de Jésus, remplie de Jésus. Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Confirmation de l'indispensable communion à laquelle chaque enfant de Dieu est appelé à vivre. Mon frère, ma sœur, fais tout pour développer ta communion personnelle avec le Seigneur Jésus. Et pendant que tu es là à table avec lui, le Saint-Esprit prend de ce qui est à lui et il te le communique. Il te l'enseigne, il le déverse en toi. afin que tu sois, par un renouvellement constant, rempli de Jésus. J'aimerais dire ceci. Quand on a compris ça, on ne surfe pas sur les réseaux et sur Internet pour lire ou écouter toutes sortes de recettes miracles et novatrices pour une vie chrétienne victorieuse. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des sinuosités imaginaires, pseudo-bibliques, pour vivre une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Non, je comprends. Jésus l'a dit lui-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est simple, hein? Ça va? Pas trop compliqué. Faut pas bac plus 5 pour ça. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sans effort de votre part, simplement parce que vous connaissez la vérité. Il y a ce phénomène libérateur. La vérité vous affranchira de quoi ? Du péché, de la peur, de la crainte, des erreurs, des séductions. Vous affranchira des complexes d'infériorité, des marques profondes de votre enfance qui n'ont pas été guéries encore. C'est de connaître la vérité. Comment connaître la vérité ? En venant à table avec Jésus et en ayant une communion personnelle et authentique avec lui, parce que la vérité, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Ponce Pilate n'avait rien compris en disant qu'est-ce que la vérité. Non, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Trop de chrétiens qui subissent les influences déstructurantes des mensonges du diable. Vous savez, il est très subtil, mais redoutable, pour venir nous perturber dans nos assurances par ses mensonges. Tu n'y arriveras jamais. Regarde-toi. Récemment, tu es encore tombé. Et regarde. Et il nous fait ressortir certains aspects. Et il exploite d'une façon assassine ses arguments d'accusateur, de culpabilisateur par ses mensonges. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est en lutte avec certains mensonges dans le domaine de tes pensées? Tu n'y arriveras jamais, tu es beaucoup trop fragile, tu es timide, tu ne sais pas parler, tu n'as jamais rien réussi depuis que tu existes, et puis regarde les autres, et par ces mensonges, mais Jésus se lève et annonce la solution. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et je crois que ce soir, le Seigneur va en affranchir plusieurs. Pas par des thérapies novatrices et compliquées, mystiques, bizarroïdes, non. En venant à table. Viens à table avec Jésus, viens. Aime-le, prie-le, adore-le. Oh, il s'en passe des choses merveilleuses dans ces moments de communion. Quelquefois, dans ces moments de communion, à table avec Christ, le Saint-Esprit, eh bien, me portera. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À verser des larmes. À verser des larmes. Moi, j'ai. Alors, pas sur celle-ci, mais sur notre Bible, il y a des pages où il y a des auréoles jaunes. En fait, c'était des moments où, en lisant ce verset, wow, j'étais à table avec le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit a visité mon cœur, m'a communiqué un bienfait intérieur. Mais j'en ai pleuré. Et j'ai taché ma Bible. Ben, tachez vos Bibles avec vos larmes. Parce qu'il y a un moment, on est tellement émerveillé devant le Seigneur que les mots nous manquent. Alors les larmes prennent le relais. Parce que nos larmes, elles parlent. Hein. Ces larmes-là, elles lui disent « Mais tu es tellement merveilleux. Et qui je suis, moi, pour que tu m'aimes comme ça ? Seigneur, je suis sans voix, je suis sans réaction, je suis bouleversé, je suis devant un mystère, parce que l'amour que Jésus nous porte, c'est un mystère. On n'est pas comme cette femme qui un jour m'a dit, « Monsieur le pasteur, je ne suis pas décidé à me convertir, mais si je me convertissais un jour, Dieu serait gagnant. Hein. » Mais bon, alors... Non. Nous, on est vraiment à l'inverse. On se dit, « Mais Seigneur, qui je suis pour que tu multiplies tant de sollicitude et de bonté à mon égard ?» Alors, quelquefois, il pourrait y avoir dans ces moments de communion des larmes d'intercession. Tu sais, quand le Saint-Esprit dépose sur ton cœur une compassion particulière pour une situation familiale ou un frère, une sœur, quelque chose, et tu as un fardeau spirituel qui vient sur ton cœur, et tu pleures des larmes d'intercession. Si chaque goutte de ces larmes pouvait parler, elle dirait « Mon Dieu, sauve, Seigneur, fais-lui grâce ». Intervient. Il s'en passe des choses à la table du Seigneur. Il n'est pas dit grand-chose, mais on essaye d'imaginer, lorsque nous lisons dans Jean 12, Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, était à table avec Jésus. Je suis sûr que là, il y a une intensité de communion, quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, dans ton espace personnel, il faut qu'il y ait la table. Et que tu y sois et que tu vives des moments merveilleux qui vont te construire, te reconstruire, te relever, t'enrichir, développer ta foi, enrichir ta vie spirituelle de dons spirituels. Alléluia. À la table du Seigneur, que le Seigneur soit béni. C'est la communion. Revenons à une communion personnelle avec le Seigneur. Afin que notre vie chrétienne ne soit pas une pratique liturgique composée de préceptes, d'interdits, d'obligations, de règles morales, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de règles morales, c'est une vie en communion avec Christ, sous la gouvernance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et ça, ça se nourrit à la table du Seigneur. Si tu as négligé ta vie de prière quotidienne, retrouve-la, parce que le défi vaut la peine d'être relevé. Et puis il y a le siège, d'ailleurs le siège avec la table, ça se relie, parce qu'on ne mange pas debout avec le Seigneur, on mange assis. Hein. Le siège, c'est le symbole, pour moi, hein, un objet symbole de la stabilité et de l'équilibre. De la stabilité émotionnelle et de l'équilibre dans ce que je crois. Et on a vraiment besoin, dans notre espace personnel, de conforter et d'acquérir cette stabilité et cet équilibre. En vous disant ça, frères et sœurs, j'ai vraiment conscience de la nécessité de nommer ces deux besoins. Ce n'est pas superflu, mais c'est une nécessité primordiale. J'ai, tu as, nous avons besoin de stabilité émotionnelle et d'équilibre dans ce que nous croyons. Et ces deux choses ne sont jamais acquises définitivement. Je ne peux jamais dire, ça y est, je suis stable pour toujours. Non. Et je ne peux jamais dire, ça y est, je suis devenu un homme équilibré définitivement. Il suffit que je dise ça pour que je trébuche sur un pissenlit et que je me retrouve comme une crêpe normande bretonne par terre. Là, vous voyez que celui qui est debout, donc il est quand même là debout, stable, prenne garde de ne pas tomber. Donc ce sont deux choses qui nécessite toute mon attention, toute mon application, tous mes soins, et que quotidiennement, je vienne conforter sur ce siège la stabilité et l'équilibre. Ce sont deux choses que le diable ciblera d'une manière prioritaire. Essayez de déséquilibrer l'enfant de Dieu et de perturber sa stabilité afin que, agité par les émotions débridées de son âme, il se fragilise lui-même. Eh bien, chaque jour, dans ton espace personnel avec Jésus, tu vas fortifier ta stabilité. Amen. Et ton équilibre. Alors, quand tout va à peu près bien, il n'y a pas d'événement particulier. Quand tout baigne, et que les oiseaux chantent, le ciel est bleu, et que les fleurs sont belles. Mais c'est lorsque la météo change que notre stabilité et notre équilibre vont devoir prouver leur capacité de nous maintenir debout, vainqueurs, sereins, persévérants. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, je termine avec le chandelier. Oui, parce que le chandelier, dans cette chambre haute, c'était la seule source de lumière. Parce qu'elle l'a bien dit, la tsunamite. Une petite chambre haute en mur, il n'y avait que des murs. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien du tout. Pas de sky dome, rien. Aucune lumière extérieure. La seule source de lumière, elle était à l'intérieur, elle venait du chandelier. Oui, parce que l'enfant de Dieu doit chercher l'éclairage de son intelligence à la lumière du chandelier et non pas dans les sources de lumière de l'extérieur. J'ai été clair ? J'ai besoin que mon intelligence soit éclairée. Sauf vous, ici, à Aubagne, vous avez, ça y est, la science infuse, tout. Mais moi, j'ai besoin que mon intelligence bénéficie de l'éclairage du chandelier. L'apôtre Paul dira, mais si vous êtes sur quelque point d'un autre avis, ça peut arriver, ça. Eh bien, Dieu vous éclairera sur ces choses. Ce que Paul souhaite, ce n'est pas une confrontation fratricide sur tel ou tel sujet, mais ce qu'il donne comme solution de sagesse et qui est porteuse d'espérance, c'est que Dieu vous éclairera. Il y a un chandelier. Dans votre espace personnel, il y a un chandelier. C'est la source d'éclairage de Dieu. C'est la seule source de lumière qui doit venir nous donner une saine compréhension des choses. Et j'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée. Il y a des stéréotypes qui ne correspondent pas, des images que je me suis faites moi-même. Moi, je suis oriental, vous voyez, je suis oriental. Je suis le produit d'une éducation orientale. Et nous sommes tous les produits d'une histoire, d'un vécu, d'une éducation, et puis d'une série d'expériences qu'on a traversées. Et tout ça, ça nous donne une forme d'intelligence. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre intelligence, bien imparfaite et souvent faillible, soit éclairée par la lumière du chandelier. Tant de fois, et vraiment, vraiment, je vous le dis en toute simplicité, tant de fois je lui demande, Seigneur, éclaire-moi. Ce qui ne m'empêche pas parfois, parce qu'il faut rester simple et humble, de demander des conseils. Ça m'arrive encore, de prendre le téléphone et de téléphoner à un collègue en disant, mon frère, qu'est-ce que tu ferais toi dans... C'est bien aussi de s'éclairer entre nous humblement, mais la source d'éclairage que nous voulons rechercher avec toute la sincérité de notre cœur, c'est l'éclairage du chandelier. Et dans ces moments de cœur à cœur avec ton Sauveur et ton Dieu, à sa table, assis sur ton siège, tu vas laisser la lumière divine t'éclairer. Et des évidences de compréhension vont venir dans ton cœur. Il y a des choses qui étaient des mystères, mais brusquement, il y a une évidence. Tu vas connaître, tu vas savoir comment gérer cette situation, quel timing adopter, comment il faut aborder telle personne. Il y a nécessité d'être intelligent. Hein. Amen. Il faut chercher à être intelligent. Par l'éclairage du Seigneur. J'aime cette expression, Dieu vous éclairera. Oh, moi j'ai besoin que Dieu m'éclaire. Amen. Que Dieu m'éclaire. Je termine sur cette anecdote. J'étais à La Rose, j'étais jeune célibataire et tout. J'étais chouchouté par les chrétiens le dimanche midi. J'étais traité comme un roi. Et un dimanche, waouh, un petit couple âgé, des pieds noirs là, m'invite à manger le couscous chez eux. Et le frère me dit, Jean-Marc, vous trouverez la maison, hein. Pas de problème, pas de problème. Le temps de saluer tout le monde, je prends ma Renault 6 blanche à l'époque, et pas de problème, je vais retrouver la maison, sans problème, je vais, je roule. Puis je m'aperçois au bout d'un quart d'heure qu'il y a de moins en moins de maisons. Je suis en train de sortir de l'agglomération marseillaise et à un moment donné, je m'arrête et je dois, avec les oreilles qui touchent le sol, admettre que je me suis trompé et que j'étais en train de me perdre. Quelquefois, on a besoin d'admettre les choses, hein. Et plus humiliant encore, il a fallu que je sorte de ma voiture, que je demande à un papy qui passait en vélo, là, « Papy, je cherche telle adresse. » « Wow, peu cher. Vous tournez le dos. Hein, je m'éloignais. Hein, alors il m'a indiqué, j'ai eu quand même mon couscous. Il me l'avait gardé au chaud. Hein, mais à un moment donné, on a besoin d'être éclairé. Alors quand on se trompe comme ça, ça va encore. Mais quand on se trompe dans la vie, quand on prend les mauvaises décisions alors qu'elles nous semblent les bonnes, quand on se trompe dans nos choix, on a besoin de venir à la table du Seigneur où il y a le chandelier et d'être éclairé par le Seigneur. Il vous conduira dans toute la vérité, a dit le Seigneur. Et puis, on va arrêter là ce message, mais quand même, accordez-moi 2 secondes pour dire que cette chambre haute, cet espace personnel, est devenu un lieu de résurrection. C'est devenu premièrement un lieu d'où a jailli la parole de Dieu en annonçant à la Tsunamite la naissance d'un fils qu'elle n'espérait plus avoir. De ce lieu a jailli la parole de Dieu. De ce lieu a jailli la promesse de Dieu. Une promesse absolument inconcevable pour le rationnel, annonçant un miracle, un prodige. Et comme tout ce que Dieu dit, il le fait, l'enfant est né. Amen. Et puis il y a eu la séquence de ce drame d'une mort rapide suite à des maux de tête violents. Et puis il y a eu Élisée. Dans cette même chambre, dans ce même espace, je dirais sanctifié, séparé, dédié à la rencontre avec Dieu, c'est là que la résurrection s'est manifesté, l'enfant a éternué 7 fois et Élisée l'a rendu vivant à ta maman. C'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Qui veut voir la gloire de Dieu? Moi, je lève la main. Eh bien, voilà. espace personnel avec ton Dieu, avec ces quatre éléments qui composent l'ameublement de cet espace, le lit, la table, le siège, le chandelier. Et le Dieu de la résurrection qui a ressuscité le petit de la Tsunamite, c'est le même Dieu que nous prions et professons. Il demeure le Dieu de la résurrection, le Dieu des miracles. Que le Seigneur soit glorifié et béni.